France Culture.
Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi?
Bonjour, Jean-Luc Gadreau avec vous dans Soleil, le rendez-vous protestant, pour pousser en ce dimanche des rameaux la porte d'un lieu, un peu à part, un lieu de silence, de prière et de fraternité. Nous allons à Versailles avec la communauté des sœurs diaconesses de Reuilly qui poursuit une histoire commencée au XIXe siècle où foi protestante et engagement au service des autres se vivent au quotidien. Qui sont ces femmes qui ont choisi la vie communautaire, la simplicité et la prière? Comment se vit aujourd'hui cette vocation? Pendant cette petite demi-heure, nous allons prendre le temps d'écouter, de comprendre et peut-être aussi de nous laisser déplacer. Entrons maintenant en immersion chez les diaconesses de Reuilly.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Moi donc, du coup, je m'appelle Sœur Anne. Je suis depuis à peine 2 ans prieure de la communauté des diaconesses de Reuilly. Prieure, c'est première parmi ses égales, donc c'est une fonction de conduite de communauté, d'accompagnement des sœurs. Quand on rentre sur la propriété de la communauté et de la fondation diaconesse de Reuilly sur Versailles, une fois passé la grille de la rue, le premier parking, le portail, on a le sentiment d'entrer dans une espèce de bulle d'oxygène ou une espèce de lieu déjà géographique qui donne le sentiment de respirer. Donc effectivement, on se dit tiens, on passe ailleurs dans quelque chose de différent qui va peut-être m'ouvrir à quelque chose d'autre. Et un de mes soucis à l'heure actuelle, ou soucis dans le sens d'objet de réflexion, c'est comment cet espace, comment on doit non seulement l'entretenir, mais l'offrir en partage à celles et ceux qui entrent chez nous pour venir chercher autre chose, une quête de Dieu, une quête d'eux-mêmes, une quête de respiration. Il y a quelque chose qui se passe une fois qu'on passe les portails d'entrée, c'est vrai. Les diaconesses de Reuilly, c'est une communauté protestante, de femmes protestantes, qui a vu le jour à la fin du XIXe siècle, en 1841, et qui aujourd'hui compte une petite quarantaine de sœurs, dont un certain nombre de sœurs âgées, mais qui est une communauté bien vivante. Au fond, je pense que quand des hommes ou des femmes donnent leur vie à Dieu, et quand en plus ils sont plusieurs, il se passe quelque chose. Donc il y a des gens qui viennent frapper à la porte. Et au XIXe siècle, celles et ceux qui ont frappé d'abord à la porte, c'était des gens qui étaient en difficulté de vie. Et petit à petit, autour de la communauté, sont nés un certain nombre d'œuvres et institutions à caractère sanitaire et social qui, au fil du temps, sont devenues plus nombreuses. Et aujourd'hui, la Fondation Diaconesse de Reuilly, c'est une grosse communauté d'œuvres et d'établissements, toujours dans ces domaines-là. Et puis, une communauté de sœurs qui, petit à petit, a pris son espace de vie de prière, de vie fraternelle, de vie d'accueil pour un autre type d'accueil que celui qui maintenant est pris en charge par les établissements, mais qui sont des hommes et des femmes qui disent ben, on a besoin d'un lieu où on peut se retirer pour la prière, on peut se retirer pour simplement essayer de se retrouver soi-même avec Dieu, pouvoir être aidé dans ce cheminement-là. Et du coup, la communauté des sœurs aujourd'hui, ce qui est premier, c'est la vie de prière ensemble. Donc c'est une forme de prière plutôt liturgique, mais avec des expressions spontanées aussi et puis l'accueil d'hommes et de femmes qui viennent seuls ou en groupe pour un temps. Il y a les salles à manger pour les hôtes en groupe. Là, donc.
Et puis après, c'est des lieux, des salles de réunion, juste pour
ça. Ils sont où l'été.
D'accord. Ah, bon, mais okay. Du coup, tu peux lui montrer la main d'un
oui.
Ça, pour voir. Et après, vous voyez. Et après, vers 11h30, il faudrait des...
si tu peux, ou bien tu m'appelles. Les... Oui, l'accompagner au magasin.
Et ça a été, en fait, ça a été tout refait ici l'été dernier.
C'est une décoration, remarquable.
Mais oui, mais parce que j'ai enlevé l'étage. On arrive à concilier les deux manières de vivre l'espace, quoi. Parce que quand on vit quelque chose de plutôt retraite spirituelle, on n'a pas forcément besoin de l'écran. Voilà, il est quand même utile.
Et c'est vrai que ça a été bien trouvé quand même, cette manière de cacher. Bon, je vous laisse.
D'accord.
Vous allez entendre quelque chose.
Je suis sœur Sophie. Je suis dans la communauté depuis septembre 2017. Actuellement, je suis en partie dans l'accueil à l'hôtellerie et puis chantre pendant la liturgie. Donc je suis issue d'une assemblée chrétienne qu'on appelle l'Assemblée des Frères ou d'Arbistes. Alors le chemin qui m'a conduit à entrer chez les diaconesses est d'abord un chemin complètement invisible pour moi. C'est-à-dire que ça a duré très longtemps sans que je sache ce qui m'a amené à ça. Parce que je n'avais aucune notion de la vie communautaire religieuse dans le monde protestant. J'avais une grande recherche. Le chemin de Dieu m'a fait rencontrer des personnes au fur et à mesure qui m'ont aidé à parler et à entendre en fait ce que je recherchais. Et c'est une grande rencontre avec la communauté au Moutier qui m'a éclairée sur ce que je cherchais comme place dans le monde. Ce que je souhaite proposer aux personnes qui viennent nous rencontrer, c'est qu'ils puissent trouver la liberté de prendre le chemin auquel ils sont appelés. En fait, ils ne savent pas toujours ce dont ils ont besoin. Nous, on ne le sait pas non plus. Mais ce qu'on sait, c'est que Dieu va y répondre. On essaye d'ouvrir ce chemin-là.
Je serais assez tentée de parler d'une spiritualité de l'attention qui se traduit au fil des siècles de manière différente, mais toujours une attention à l'autre, l'autre différent, dans le monde qui se présente selon les décennies. C'est se dire qu'est-ce qui résonne dans cet aujourd'hui comme un besoin. Est-ce que nous, comme communauté, avec ce que Dieu nous a donné de capacité d'attention, mais de sens de vie fraternelle, qu'est-ce qu'on peut offrir ou susciter parmi ceux et celles qui travaillent à nos côtés pour orienter vers telle et telle chose ou telle et telle personne? La spiritualité, qui est peut-être aussi une théologie de l'attention, me paraît un certain fil rouge. Il y en avait sans doute d'autres, mais il y a en tout cas celui-là.
Karen Lévesque-Couster, je suis pasteur à Hermont, en Proposana, donc au début de mon ministère. Cette semaine, nous sommes réunis, donc tous les proposants de l'Église protestante unie de France, au sein de la communauté des diaconesses de Reuilly, être dans ce lieu, entouré des sœurs, de leur bienveillance, qui est vraiment visible dans les contacts qu'on a pu avoir avec elles, participer à leurs prières, c'est aussi une belle façon de prendre du recul sur nos pratiques, sur notre vie quotidienne en paroisse. C'est un temps de ressourcement aussi pour nous, et qui, je pense, va nourrir et nous aider à échanger encore plus profondément.
Moi, je m'appelle Sœur Nathalie, je suis britannique, je suis anglicane. Je suis responsable de la buanderie et Je remplace des sœurs quand il y en a besoin, aussi pour m'en charger des sœurs aînées qui ont des difficultés à marcher, par exemple, les amener à l'office, les ramener. Et aussi, je aide aussi avec la réception de livraison de nos nécessités, nos besoins alimentaires. Les gens ici sont très, ils ont des qualités, des fruits d'esprit, hein. Ils sont gentils, mais plus que ça, patientes. On est à la même fois très humaine. Donc, on a toutes nos faiblesses, caractères. Ce n'est pas les gens que j'aurais choisi pour vivre avec, mais ils nous portent et ils rendent tout ça possible. La vie communautaire est exigeante, mais elle est très belle. Et tu t'es rendu possible justement par cette présence-là qui est le Christ.
Quand aujourd'hui, en 2026, on dit qu'est-ce que ça veut dire devenir diaconesse, on ouvre un champ de compréhension très large, puisque depuis quelques années, la communauté des sœurs a donné son nom complètement à la fondation diaconesse. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire être diaconesse de Reuilly, le directeur de tel établissement, l'aide-soignante de tel EHPAD, la femme de ménage? Ça, c'est un grand champ et c'est passionnant parce que c'est vraiment la recherche actuelle de qu'est-ce que ça veut dire être diaconesse de Reuilly. Mais votre question, elle s'adresse à moi. Donc, c'est qu'est-ce que c'est être sœur de Reuilly? Sœur diaconesse, faire partie de la... Et comment on devient sœur diaconesse? D'abord, parce qu'il y a quelque chose dans la vie de femme qui vient de Dieu et qui dit à quoi Dieu m'appelle sur cette terre. Donc ça, c'est sûrement la première question qu'on a dû se poser à un moment donné. Parce que il y a certaines sœurs, ça vient comme ça sur... elles savent d'emblée ce que Dieu leur demande. Mais la plupart d'entre nous, c'est une démarche de foi. Se dire, ben, j'ai envie de m'engager à la suite du Christ. On a plein de représentations diverses selon les milieux d'où on vient. Et puis soit on cherche sans connaître du tout les sœurs, donc on ne sait pas. Et il y a une espèce, je pense, une sorte de languissement profond pour trouver une adéquation profonde entre ce que j'éprouve quelque part à l'intérieur de moi et ce que je pourrais incarner. Et donc on peut chercher comme ça longtemps. Ou bien avoir la chance de rencontrer la communauté dans un de ces lieux et de se dire « Tiens, ça correspond exactement à ce je ne sais pas quoi qui m'habite et qui pourrait s'incarner là. » Dans la vie d'une communauté, on vient chacune avec des accents différents, donc ça ne va peut-être pas être toute la communauté qui va nous plaire d'emblée. Mais ce qui va faire qu'on va rester, c'est que dans le package global, il y a suffisamment de choses qui viennent nourrir cette aspiration profonde et qui vont se dire « Bon, c'est quand même là que je veux aller. »
Donc la chapelle a été construite, d'abord il y avait une tente qui servait de lieu de prière, elle a été remplacée par une deuxième tente, et puis on s'est dit qu'il faudrait quand même quelque chose en dur. Et un architecte, Marc Rollinet, a fait une proposition qui a donné ceci, pour qu'il y ait l'impression d'étrangers et voyageurs sur la terre, qu'il y ait quelque chose de l'extérieur-intérieur, c'est-à-dire qu'on est à l'intérieur, mais en même temps on entend un peu les bruits de l'extérieur, pour retracer l'atmosphère de la tente. Et donc, quand les gens arrivent, la première fois, ils sont toujours surpris par l'architecture. Et il y a ceux qui disent que ça ressemble à un cocon, ceux qui disent que ça ressemble à un bateau renversé, ceux qui disent que ça ressemble à une ruche. Donc il y a comme ça beaucoup de réactions. Et c'est assez intériorisant dans la mesure où il n'y a quasiment rien à regarder. Donc on est invité à fixer son regard quelque part et à prier. Moi c'est Sœur Caroline, je suis arrivée en 2009 et j'ai été consacrée en 2015, puisque le chemin d'une sœur, il y a du temps pour se décider. Je suis sur deux postes différents, je suis à la fois à la liturgie ici, pour préparer les offices. Et puis l'hôtellerie, où je suis plus chargée de la dimension administrative, un peu d'accueil aussi, mais beaucoup moins que Sœur Sophie, qui est là davantage pour l'accueil. Quels sont les grands axes de la liturgie des diaconesses? Alors, il y a un rythme quotidien, un rythme hebdomadaire, un rythme annuel. Donc la liturgie, ce sont ces trois rythmes qui se conjuguent. Le rythme quotidien, ce sont les offices du matin, midi, soir. Là, je parle uniquement des offices publics. Il y a encore un petit temps avant, au lever quasiment, et un autre après, juste avant le coucher. Donc 8h30, c'est l'office des louanges. On se lève et on est prêt à recevoir la journée avec gratitude. Et on le chante. À midi, c'est l'office dit des béatitudes qui fait la coupure dans la journée. Et cet office des béatitudes, ben, on y chante les béatitudes. C'est heureux. Et derrière, il y a quelque chose qui n'est pas du tout dans l'esprit du monde. Heureux les pauvres, heureux les malheureux, heureux les affamés, heureux. Et toujours la promesse qui va avec, qui permet d'aller plus loin, qui permet de ne pas s'arrêter à la douleur qu'on vit, qu'on traverse, mais qui permet de se dire, ce que je traverse, ce n'est pas la fin de ma vie. Ce que je traverse est un moment de ma vie qui est difficile, qui est douloureux, mais c'est un moment. L'office du soir est un office du soir qui clôt la journée, où on reconnaît qu'on n'a pas toujours été à la hauteur de ce qu'on aurait dû. On le reconnaît dans la prière personnelle de chacune. Oui, c'est un temps où on relie un peu la journée, mais toujours avec le chant des psaumes, avec une lecture biblique, avec une prière spontanée, comme le matin. Le matin, il y a une prière spontanée d'une sœur, et le soir, il y a une prière spontanée de la sœur qui conduit l'office. Et puis la bénédiction, avec toujours des temps de silence aussi entre eux, qui permettent d'intérioriser.
Seigneur, nous te rendons grâce pour ce repas par lequel tu restaures nos forces et tu nous réunis dans la joie et la paix fraternelle. Accorde-nous de savoir discerner toujours tous tes dons et nous reconnaîtrons que nous sommes tes enfants bien-aimés maintenant et toujours. Amen. Amen.
Nous allons commencer par une déclaration commune sur l'extension du conflit au Moyen-Orient, exprime de vives préoccupations concernant les répercussions humanitaires et sociales de la guerre. Alors qu'elle affronte depuis de nombreuses années des défis politiques, économiques et sociaux complexes, la population iranienne, soit plus de 92 millions de personnes, doit désormais affronter les menaces immédiates liées au conflit actuel et un avenir très incertain, peut-on lire dans la déclaration. À mesure que ce conflit se prolonge, les risques humanitaires et les souffrances vont inévitablement s'aggraver. Les organisations se déclarent également très préoccupées par les témoignages de plus en plus nombreux faisant état de graves violations du droit international humanitaire pendant les opérations militaires en cours. Nous affirmons avec force que toutes les parties en conflit ont l'obligation morale et juridique de protéger les civils et de s'abstenir de cibler les zones et infrastructures civiles, indique la déclaration. Soulignant que les chrétiens et chrétiennes ne reconnaissent aucun droit divin à tuer, à détruire, à déplacer ou à occuper, les organisations affirment que la guerre est incompatible avec la nature même de Dieu et avec sa volonté pour l'humanité. Elle va à l'encontre des principes fondamentaux du christianisme. Alors ensuite, nous allons lire dans la presse régionale protestante, Parole protestante, différents articles.
Est-ce qu'on prend du sucre ?
Non.
Pour une semaine.
Tu peux t'asseoir.
ta règle.
Ah, mais... Bon, alors, mes sœurs, aujourd'hui, nous partageons ensemble le chapitre de la règle vivante. Est-ce qu'on peut le lire ensemble?
Bien sûr. Vivante. Deviens vivante et reste vivante. L'Esprit de Dieu t'invente à tout instant. Repousse la tentation de t'immobiliser dans les choses comprises, même parmi les plus grandes et les plus belles. Reçois chaque jour le don de la nouveauté de Dieu et de tes frères.
Donne force et stabilité à ton engagement, mais ne l'enferme pas dans des formules ou des habitudes dépourvues de vie. Les cellules de ton corps à tout instant se modifient et l'ordre du monde se découvre sans cesse. Comment la vie divine que t'infuse l'esprit serait-elle moins créatrice?
Avance vers ce Dieu toujours plus grand, ce Dieu sans frontières. Il t'a enclose dans des limites, mais leur espace est si vaste que tu n'en feras pas le tour sur cette terre.
Laisse-toi gagner par l'admiration et connais avec tous les saints quelle est la largeur, la hauteur, la longueur et la profondeur de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance.
Et ce que je trouve étonnant aussi, c'est « demeure vivante et reste vivante ». Ce n'est pas toujours facile de rester vivant parce qu'on a quelquefois des moments où on est vraiment dans l'euphorie. Il y a le temps est beau, il y a un tas de choses qui nous ont réjouis, on est dans l'euphorie. Et puis on se sent porté. Et rester dans cet élan-là, ce n'est pas facile de rester vivant et sans être figé. Et de continuer à être porté, à se laisser porter dans la joie. C'est ce qu'on espère, en tout cas, quand on est vivant, on espère être dans la joie et pas dans la tristesse. Si on est dans la tristesse, on n'est plus vivant, on commence à être dans la mort.
Tu penses ça? Moi, je pense que la tristesse, c'est un sentiment de vie. Si je suis triste, c'est que je vibre à quelque chose.
Ça dépend,
si je suis en colère...
Oui, il y a différentes... Ben c'est vrai, il y a différentes
tristesses. Si je suis en colère, c'est que je suis en train de réagir et le jour où je ne me mettrai plus en colère, où je m'indignerai plus parce qu'on se dit que peut-être il y en a un qui va sortir des électeurs, des urnes et qu'on n'en a pas du tout envie, ben le jour où je ne m'indignerai plus, je me dirai que je suis morte. Moi, en tout cas, je serais comme ça. Hein.
Alors, sœur Perside, je suis depuis plus de 10 ans dans la communauté. Je suis d'origine congolaise, du Congo-Brazzaville, et je m'occupe au sein de la communauté de l'artisanat.
Moi, je suis sœur Marie-Liesse, je suis à la communauté depuis presque 30 ans maintenant. Je suis économe générale depuis 15 ans, après avoir été à l'hôtellerie pendant 15 ans aussi. Et je travaille avec sœur Perside pour l'artisanat au niveau de la gestion, mais pour la réflexion globale sur ce que nous aimerions communiquer à nos amis et à nos hôtes, et particulièrement au niveau de la librairie et la librairie protestante, puisque nous sommes une des rares librairies dans l'Ouest parisien.
Alors, on va peut-être présenter l'artisanat de la communauté. Nous avons des ateliers qui s'occupent de tout ce qui est la liturgie, donc ce sont les bougies, avec des fleurs qui sont cueillies dans notre parc, essentiellement. Donc, c'est vraiment un produit très local. Et puis, des bougies aussi à base de la cire d'abeille. Nous avons aussi un atelier bois. Celui-là concerne particulièrement la peinture sur bois. Et là aussi, c'est une sœur qui réalise ces peintures. Et son originalité à notre sœur, c'est qu'elle est très sensible à l'art des pays de l'Est. Donc, c'est un petit peu la note particulière qu'elle pose sur notre travail d'artisanat bois. Puis, nous avons aussi la reliure. Nous réalisons donc, dans le cadre de la reliure, des cahiers spirituels qu'on verra donc dans le cadre de notre librairie, des calendriers perpétuels aussi que vous trouverez dans le magasin, et la reliure d'art qui est pour l'instant en suspension. En rajoutant une note particulière à l'artisanat de la couture, dans lequel nous réalisons des nappes, des tabliers, tout ce qui est autour de la layette pour les bébés.
Le magasin est ouvert tous les jours, sauf le mercredi. Il est ouvert l'après-midi. Il est ouvert sur demande aussi si une personne voulait prendre rendez-vous. Quand j'étais toute petite, j'ai rencontré une dame très âgée, chrétienne, qui avait eu de nombreuses épreuves dans sa vie et qui rayonnait de joie. Et elle m'emmenait chez elle, elle priait devant moi. Et ça a été une approche du mystère de Dieu très fondatrice pour moi. Plus tard, à l'abbaye du Bec-et-Loing, j'ai rencontré le frère hôtelier qui était exactement comme elle. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, en étant un peu comme Paul, complètement foudroyé par l'appel de Dieu, que j'ai compris que c'était ma place dans une communauté protestante. Et ce n'est pas pour rien qu'on m'a donné le nom de Marie-Liesse, parce que cette joie que je pressentais en moi, elle s'est développée. Et je pense que c'est un grand charisme de la communauté. La beauté et la joie font vraiment partie de la communauté. C'est un grand cadeau que nous avons reçu, et Sœur Myriam, notamment, l'a beaucoup développé.
Alors, pour celles et ceux qui frappent à nos portes, que ce soit à Versailles, que ce soit au Moutier, ou même à Reuilly, où on a une toute petite fraternité, et qui viennent parce qu'ils sont fatigués et chargés, comme dit l'Écriture, qui viennent faire une halte, une retraite, être en retrait, c'est ça, c'est prendre un peu de recul. J'espère qu'on peut être comme une oasis, c'est-à-dire un endroit où on vient reprendre souffle. Et j'espère que nos lieux de communauté peuvent être ça, c'est-à-dire un endroit où je m'autorise à être moi-même. Toi, tu es là parce que tu t'appelles Jean-Luc, Françoise, Sidonie, et puis que tu as besoin de te poser. Et être témoin pour toi que Dieu t'accueille, t'accueillir au nom de Dieu. Et en tout cas, offrir la prière commune, un endroit où tu peux te poser, venir déposer la tienne. Et puis, si tu as besoin de rencontrer une sœur pour parler quelque chose de plus personnel, c'est aussi possible.
Dans un monde souvent pressé où l'on mesure tout à l'efficacité, il existe donc encore des lieux où l'on choisit simplement de vivre, prier et servir ensemble. La vie des diaconesses est sans doute une bien belle manière de rappeler discrètement que l'Évangile peut encore prendre corps dans des vies offertes. Je voudrais dire un grand merci à Sœur Anne et aux autres sœurs de la communauté à Versailles de m'avoir ouvert leurs portes et si bien accueilli. C'était Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé à la Maison de la Radio par Thomas Jost et Marie-Claire Oumabadi à la prise de son. Cette émission, vous pouvez la réécouter cette semaine sur le site protestantaupluriel.org et à tout moment sur celui de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Sur France 2 ce matin, dans Présence protestante à 10h, variation éthique autour de la question des médias. Et moi, je vous retrouve tout à l'heure à 16h, ici, sur France Culture, pour la dernière du carême protestant avec la pasteur Nathalie Chaumet. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon dimanche à chacune et chacun.